Bonjour mes frères et mes sœurs. Avez-vous l'esprit critique? Voyez-vous les choses toujours du mauvais côté? Voyez-vous des fautes partout? Pensez-vous être supérieur aux autres? Autrement dit, vos idées sont-elles meilleures que celles des autres? Avez-vous l'esprit critique? C'est ainsi en ce qui concerne beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose à faire ou bien qui ont beaucoup de temps à gaspiller. Ils voient des fautes partout. Ils ne voient pas les fautes qu'ils commettent eux-mêmes. Voyez-vous, cette nature humaine en nous tous, la vôtre et la mienne, a cette tendance sous l'influence de Satan. Et oui, d'une façon générale, nous avons cette tendance de voir les choses comme Satan voit, car c'est un monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de Satan, voyez-vous. Non pas que la nature humaine par elle-même soit mauvaise, non, mais la nature humaine sous l'influence de Satan commence à produire des fruits qui ne sont pas bons. Pensez-vous vraiment être au-dessus des autres? Non. Pensez-vous être au-dessous des autres? Certainement oui. Autrement dit, une infériorité complexe ou bien complexe de supériorité, tout ça, ça crée en quelque sorte en nous un esprit critique, un jugement. Savez-vous ce que Jacques, l'apôtre Jacques a dit? Laissez-moi vous le citer. Jacques, chapitre 4, verset 11, il dit « Ne parlez point mal les uns des autres. » C'est clair. Ensuite, il dit « Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge un frère parle mal de la loi et juge la loi. » Vous direz « Ça veut dire quoi ?» Mais c'est normal parce que, voyez-vous, tout en ce monde est régi par des lois. Donc, si vous parlez mal d'un frère, automatiquement, vous critiquez le Créateur, la loi, tout ce qui est en ce bon monde. Ensuite, Jacques ajoute, « Or, tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Une chose est certaine, il n'y a qu'un seul juge dans tout l'univers. C'est Dieu le Père, le Christ, évidemment. Autrement dit, et on ne peut pas vraiment, étant humain, être un juge correct, juste, impartial en toutes choses, pas du tout. Dieu est le seul bon juste. Dieu arrange tout, Dieu fait tout, et ce qu'il y a bien avec Dieu, c'est que, voyez-vous, ce que Dieu fait, ce n'est pas pour une seule personne seulement, mais pour tout le monde. Autrement dit, la justice qui s'applique à moi ne doit pas produire une injustice envers mon prochain. C'est comme ça que Dieu travaille, voyez-vous. En fait, je dirais ceci. L'esprit critique est un esprit de preuve, vous faites preuve de non-conversion. Tandis qu'un esprit converti est un esprit qui laisse Dieu juger, qui laisse Dieu arranger. Un esprit converti ne critique pas, mais accepte ce qu'il peut accepter, change ce qu'il peut changer, et entre-temps, il discerne l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu. Comme vous pouvez voir, et je vous ai souvent dit, la vie est une question de choix. Vous choisissez quelque chose. Même les idées, les pensées que vous avez, vous les choisissez. C'est un défi. J'ai fait un sermon il n'y a pas longtemps, le titre était « La vie est un défi ». Et c'est vrai. Le matin, vous vous levez, vous faites preuve ou bien vous faites face à un défi. Dans la journée, vos décisions sont toujours question de choix. La nuit, vous vous couchez, c'est encore une question de choix. Autrement dit, qu'allez-vous faire le lendemain? Autrement dit, comment voulez-vous vraiment préparer le jour suivant après avoir passé une nuit tranquille? J'espère tranquille. Regardez à mort, la Bible est pleine d'avertissements. La Bible nous dit exactement comment avoir la paix d'esprit. Dieu est seul juste, je le répète, et devant Dieu, aux yeux de Dieu, à moins que nous fassions sa volonté, nous nous mettions sous sa volonté, nous ne pourrons jamais passer de bons jugements. Absolument pas. De temps en temps peut-être, mais pas toujours, et certainement pas tout à fait juste aux yeux de Dieu. Le Christ a dit, Matthieu 7, verset 11, et ça c'est intéressant, il dit, « Si donc méchant qu'on vous l'êtes, voyez-vous, Dieu nous regarde, Dieu sait ce que nous sommes, et il nous traite ouvertement, il dit, « Si donc méchant qu'on vous l'êtes, il nous pardonne tous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et c'est vrai, regardez voir un père d'enfants, de plusieurs enfants par exemple, il tâchera d'être juste à l'égard de tous les enfants, ils donnent de bonnes choses dans la mesure du possible. » Alors le Christ dit, si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire Dieu le Père, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Intéressant. Dans ce cas-là, vous direz, comment ça se fait que je demande et je ne reçois pas? Comment ça se fait que la Bible nous promet une chose et que nous-mêmes, nous mettons en pratique cette demande, rien n'arrive. En êtes-vous sûr? Souvent, vous avez la réponse, mais cette réponse n'est pas visible sur le champ. Cette réponse n'est pas toujours visible au moment même où vous demandez. C'est ça, voyez-vous, ce qu'on appelle aveugle. Vous ne voyez pas toujours, mais la vérité est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu vous répond toujours. Autrement dit, nous devons demander avec foi, avec conviction, et aussi avec modestie et avec humilité. C'est là, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, le secret. Nous ne savons pas comment demander. La plupart du temps, un enfant ne sait pas comment demander à son père des choses afin de les recevoir. La même chose avec nous en ce qui concerne nous, et Dieu le Père. Réfléchissez, je vous prie. Chacun en ce bas monde a des responsabilités. Un enfant a certaines responsabilités. Il doit certes obéir à ses parents, et dans son petit domaine à lui, il a des responsabilités. Une mère de famille a des responsabilités. Il faut qu'elle les accomplisse, il faut qu'elle fasse sa part. Si la maman ne fait pas sa part, le reste de la famille n'avance pas comme elle devrait avancer. Le père de famille a ses responsabilités. Nous avons tous des responsabilités et à mesure que nous accomplissions nos responsabilités, nous arrivons au but pour lequel nous avons été créés. Dans le travail, au bureau, à l'usine, dans tout ce que vous faites, il y a toujours une responsabilité à remplir. Vous devez faire ceci, je répète, sans critiquer, sans voir les fautes auprès des autres, sans juger. Et c'est cela dont je vous parle aujourd'hui. Car lorsque vous assumez vos responsabilités, soyez sûr que vous ne sous-estimez pas les autres, vous ne critiquez pas les autres, vous ne voyez pas des fautes, alors que vous-même, vous êtes probablement coupable de beaucoup plus de fautes. Rappelez-vous une chose fondamentale. D'une façon générale, nous autres humains, nous sommes tous mauvais. Et oui, c'est la base, sous l'influence de Satan. Et si, par exemple, vous vous considérez comme étant juste, comme étant bon, comme étant de bon caractère, laissez-moi vous citer un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament. Notez-le. Romains chapitre 3, verset 10. Vous savez, ce sont des paroles qui sont prononcées par l'Éternel Dieu. Donc, ce sont des paroles justes, et il est grand temps que nous puissions, nous tous, y prêter l'oreille. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, dit-il, il n'y a point de juste. Intéressant. Il n'y a point de juste, pas même un seul, écrit l'apôtre Paul sous l'inspiration divine. Nul n'est intelligent. Ah bon? Vous pensiez être intelligent? La Bible dit « Nul n'est intelligent ». Ensuite, il dit « Nul ne cherche Dieu ». Encore intéressant. Vous direz « Merci, merci, je cherche Dieu ». Comment est-ce que vous cherchez Dieu? Cherchez Dieu à la façon même, de la façon même qu'on puisse voir Dieu, qu'on puisse voir et entendre Dieu dans la mesure du possible en tant qu'être. Non, je change. Ça, j'ai changé, c'est la phrase. Je répète la phrase, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est là le secret. Nous sommes tous égarés, nous sommes tous pervertis. Pourquoi? Parce que Satan, le diable, est toujours là. Et je continue, verset 12. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Donc si il n'y a aucun qui fasse le bien, comment pourriez-vous critiquer les autres? Comment pourriez-vous juger? Comment pourriez-vous vous penser être meilleur que les autres? Et il dit pas même un seul. Et la façon dont nous nous exprimons, dont nous parlons. La Bible dit, verset 13, Romains 3, leur bouche, leur gosier, 13, leur gosier est un sépulcre ouvert. Vous savez, c'est fort ça. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Vous comprenez tout ça? Ils ont les pieds légers, c'est-à-dire ils sont en train de circuler, de marcher, d'aller partout pour répandre des rumeurs ou bien pour calomnier, pour juger, pour critiquer. Et la Bible condamne tout cela. La destruction et le malheur sont sur leur route. Si vous suivez ce chemin, si vous avez cette tendance à critiquer, à juger, à voir le mal partout, à vous sentir supérieur, alors, voyez-vous, vous répandez le sang. La destruction et le malheur, dit-il, sont sur leur route. Ensuite, une phrase, un verset important, je dirais même essentiel, Paul écrit, verset 17, Romains 10 toujours, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Je vous prie de réfléchir, je vous prie. Si vous avez vraiment l'esprit critique, si vous jugez, vous n'aurez jamais l'esprit de la paix. Ce n'est pas possible. Mais si, par contre, vous vous soumettez à Dieu, vous aimez votre prochain comme vous-même, vous ne voyez pas le mal autour de vous, alors là, vous avez la tranquillité d'esprit. S'il y a un changement à faire, laissez Dieu le faire. S'il y a vraiment un changement radical dans votre vie ou dans vos rapports avec quelqu'un d'autre, laissez Dieu faire. Vous vous comportez en tant que chrétien. Un chrétien tourne la joue s'il le faut. Un chrétien ne juge pas parce que c'est que Dieu se le juge. C'est ça, voyez-vous, c'est ça que la Bible prêche. Au verset 18, Romains 3, Dieu dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est quoi la crainte de Dieu? J'ai fait plusieurs sermons à ce sujet. Le mot crainte a plusieurs significations. Ça peut être synonyme de peur, et aussi crainte dans le sens que vous respectez. Eh oui, le mot original ici, en grec et aussi en hébreu, lorsqu'il s'agit de la crainte de l'Éternel, c'est respect envers l'Éternel. Ne pas juger, car il y a même des gens qui jugent Dieu. On n'est pas d'accord avec Dieu. Combien de fois j'ai entendu les gens dire, « Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu fait des choses pareilles, donc n'est pas Dieu, n'est pas juste. » Dès que vous commencez à critiquer Dieu, non pas seulement vous êtes dans vos torts, mais en même temps, vous vous éloignez de Dieu. Non, ne soyez pas juge. Laissez Dieu faire les choses. Dieu, je répète, lorsqu'il agit, il agit de façon à ce que tous soient bénis, tous soient sous la protection divine. Humainement parlant, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, quelque chose de bon, il se peut que par la même occasion, je fasse du tort à quelqu'un d'autre. Tandis qu'avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Si Dieu fait quelque chose de bien à vous, à moi, automatiquement, c'est quelque chose qui est bien, ne va pas être pour le malheur de l'autre. Autrement dit, devant Dieu, aux yeux de Dieu, tous en bénéficient. Comprenez-vous cela? Voyez-vous, cette nature humaine que nous avons, sous l'influence de Satan, a toujours tendance de critiquer, de juger, de voir mal. Combien de fois je parle aux gens en ce qui concerne le ministère, et ils se plaignent de la vie, ils ne sont pas contents. Rien ne va en ce qui concerne. Eh bien, changez votre façon de penser. Au lieu de voir le mal ou le mauvais ou le jugement des autres, voyez le bien. Voyez en quelqu'un qui est pauvre, mettons, une richesse. Voyez en quelqu'un qui a un caractère laid ou mauvais, voyez quand même en cette personne-là quelque chose de bien. Tâchez de faire du bien. Au lieu de parler mal de quelqu'un, tâchez de dire quelque chose de bien. Vous direz, mais je ne veux pas être hypocrite. Vous n'avez pas besoin d'être hypocrite. Car il y a toujours en toute personne, en toute chose, quelque chose de bon, quelque chose de bien. Et profitez-en. Laissez-moi citer 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7. Regardez voir comment Dieu explique la crainte de l'Éternel. Maintenant, dit-il que la crainte de l'Éternel, le respect envers l'Éternel, soit sur vous. Voilà, voyez-vous, ça c'est une bonne instruction. Veillez sur vous, sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, et ni acception de personne. Je prends un instant ici pour réfléchir. Réfléchir avec vous. Quand vous souvent vous regardez autour de vous, vous voyez quelqu'un qui est plus béni que vous, et vous voyez injustice avec Dieu. Quelqu'un plus riche, plus beau, plus jeune, plus en meilleure santé. Alors ce n'est pas juste. Et vous dites, Dieu fait exception de personne, alors que la Bible dit non, Dieu ne fait pas exception de personne. Ça, c'est une pilule dure à avaler. Il faut absolument que nous puissions, une fois pour toutes, savoir que Dieu ne fait pas exception de personne. Mettez ça dans votre tête. Je répéterai toujours, le but de la vie, pour chaque être humain, c'est que nous puissions un jour entrer dans le royaume de Dieu. Le chemin que nous prenons, ce sera le chemin que Dieu nous indique dans la vie. Si nous prenons le chemin que Dieu a tracé devant nous, nous arriverons beaucoup plus facilement qu'autrement. Donc, si Dieu ne regarde pas l'apparence, qu'est-ce qui vous fait penser que Dieu est injuste? Eh bien, je vous dirai une chose. La plupart du temps, lorsque vous voyez injustice auprès de Dieu ou bien auprès d'un ami, c'est parce que vous-même, à cause de jalousie, à cause de vanité, à cause d'orgueil, à cause d'envie, vous cherchez des excuses pour ne pas être content de ce que vous avez et pour critiquer. L'un des dangers de cette attitude, vous savez c'est quoi? C'est tout simple, c'est rumeur. Chaque fois que vous pensez parler de quelqu'un et que vous commencez à répandre des rumeurs, dès ce moment-là, vous avez un mauvais caractère. Et dès ce moment-là, vous vous détournez de la bonne route, du bon chemin. C'est quoi une rumeur? Est-ce la vérité? Non. Est-ce une supposition? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, n'est-ce pas, une rumeur, c'est quelque chose que vous entendez et que vous répétez aux autres. Quelle garantie avez-vous que ce que vous avez entendu constitue la vérité? La supposition est l'une des pires choses que vous puissiez faire. Vous supposez quelque chose, mais sur quoi sont-elles basées vos suppositions? Ou bien vous entendez quelque chose. Comment est-ce que vous savez que ce quelque chose est juste? Si ce n'est pas juste, vous n'êtes pas sûr. Pourquoi répéter? Ça, c'est le danger. Voyez-vous. Voilà, je dirais, la base même de mon sermon. Ne répétez jamais un bruit, une nouvelle, à moins d'en être absolument certain, absolument convaincu, être témoin de la chose. Et encore, si vous répétez quelque chose qui n'est pas bon, dans ce cas-là, vous faites du tort à votre prochain. Donc, éloignez-vous de ce genre de choses. Ne répétez pas les rumeurs, ne répétez pas les choses que vous entendez. S'il y a un changement à faire et qui a besoin d'être fait, laissez Dieu faire le changement, car Dieu fera les choses de la façon que personne n'en souffre, mais que tous en bénéficient. L'apparence d'une personne n'a aucune importance. C'est nous qui jugeons d'après l'apparence. Et je répète, une rumeur, quelle que soit sa base, ne doit pas être répétée, car une rumeur sème la division. Que dit Dieu dans la Bible en ce qui concerne ce désir, cette tendance de répandre des rumeurs? Humainement parlant, pouvez-vous par exemple définir, soyons francs, le mal que ça fait lorsque vous parlez mal de votre prochain, ou bien lorsque vous répandez des rumeurs? Voudriez-vous qu'on parle de vous de cette façon-là? Supposons qu'on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas commis. Comment vous défendre? Comment vraiment dire aux gens que ce n'est pas vrai? Parce que la nature humaine, sous l'influence de Satan, a toujours tendance à croire ce qui est mauvais, ce qui est mal. Donc, une rumeur devient « réalité » entre guillemets aux oreilles de ceux qui l'entendent. Voyez ce que Dieu dit, Lévitique chapitre 19, verset 16 à 18. « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. » C'est clair, c'est juste. Répandre calomnie, c'est répandre des rumeurs. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. » Autrement dit, voyez-vous, vous devenez assassin, pour ainsi dire, lorsque vous participez à des rumeurs. Dans Lévitique chapitre 19 et ailleurs, chaque fois que Dieu donne un ordre, pas chaque fois, mais souvent, il met son sceau. Il dit « Je suis l'Éternel ». Voyez-vous, ici, il dit « Tu ne répandras point de calomnie, je suis l'Éternel. » C'est un tampon. De même, le verset suivant, il dit « Tu ne haïras point ton frère. » Combien de fois nous haïssons nos frères parce que nous parlons mal de lui, nous répandons des rumeurs, parce que nous jugeons, parce que nous critiquons. Dieu dit « Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » Et il continue, verset 18, il dit « tu ne te vengeras point, encore. » C'est encore un autre trait du caractère humain. On veut prendre vengeance. Écoutez, s'il y a lieu de vengeance, laissez Dieu faire le nécessaire. Je ne peux pas vraiment faire justice si j'agis sous l'esprit de vengeance. Il se peut que je sois innocent, que mon prochain soit fautif. Il se peut, encore. Mais si même tel est le cas, laissez Dieu s'occuper de ça. Que Dieu soit responsable de la vengeance qui s'ensuit. Alors vous aurez l'esprit tranquille, car Dieu fera toujours justice à l'égard de tous. Et Dieu dit, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune. Vous savez, c'est intéressant. Combien de fois, si vous réfléchissez comme il faut, vos souffrances résultent qu'à ce que vous avez dans le cœur des rancunes? Parce que vous n'avez pas pardonné, vraiment. La miséricorde n'a pas de sens à moins que vous puissiez vraiment oublier. Et oui, une miséricorde n'est pas vraiment miséricorde à moins que le pardon s'en suive et que vous effacez, vous oubliez. J'ai entendu quelqu'un dire « Oh, j'ai pardonné à telle et telle personne, mais je garde la liste des choses qu'il a faites. » Voyez-vous, ça n'a pas de sens. Si vous avez pardonné, vous ne gardez pas une liste, vous déchirez. Vous êtes déchiré de votre esprit tout ce qui est mal ou mauvais. Et Dieu dit, tu ne dérangeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la base. C'est un commandement dans l'Ancien Testament, c'est un commandement dans le Nouveau Testament. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, que ce commandement, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est presque dans toutes les religions. D'une façon ou d'une autre, ce commandement apparaît, même dans des religions qui ne sont pas chrétiennes du tout. Et Dieu, après avoir dit ceci, il dit, « Je suis l'Éternel ». Autrement dit, une fois encore le tampon, « Je suis l'Éternel ». Je dirais que, d'une façon générale, cette tendance est avec nous tous. Parce que nous ne pouvons pas voir les choses comme nous devrions voir. Et nous avons du temps à gaspiller, pour ainsi dire. L'apôtre Paul parle souvent de ces choses-là. Et l'apôtre Paul, vous savez, dans ses écrits, non pas seulement il parle de prophétie, mais aussi il parle du caractère humain. Il nous dit comment nous débarrasser de cette tendance humaine qui fait du tort à son prochain. Autrement dit, comment faire de sorte que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Prenons, par exemple, certaines diverses catégories d'individus. Une vieille femme, un vieil homme, un jeune homme, une jeune fille, ainsi de suite. Chacun, voyez-vous, a sa façon de voir les choses. Et l'apôtre Paul, par exemple, dans son épître à Tite, il mentionne chaque catégorie de gens, il montre en même temps leur faiblesse et leur qualité. Alors, en ce qui concerne les rumeurs, l'apôtre Paul ici donne l'exemple des femmes qui sont veuves, mais ce n'est pas seulement pour les veuves dont il parle. Cette tendance est dans tous, mais pourquoi les veuves? Pourquoi les gens qui n'ont pas d'occupation, mettons? Laissez-moi le citer, parce qu'il est intéressant de voir comment l'apôtre définit ceci. 1 Timothée chapitre 5, verset 11 à 13, il dit, « Refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache, dit le Christ, elles veulent se marier. » Ensuite, je saute à verset 13, « Avec cela, étant oisives, autrement dit, rien, pas grand-chose à faire, elles apprennent à aller de maison en maison, non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses. Voilà un danger. Ça, c'est donc répandre des rumeurs. Intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je répète, mes frères et mes sœurs, ce ne sont pas seulement les femmes, mais c'est aussi tout le monde. Ça peut être des jeunes ou des âgés, ça n'a pas d'importance. Le fait est que nous devons tous apprendre de ces écrits et faire le nécessaire afin d'éviter cette tendance. C'est une mise en garde, autrement dit, qui s'adresse à tout le monde. On peut être causeur, on peut perdre le temps. Surtout à l'heure actuelle, vous savez. À l'heure actuelle, les gens ont tellement de gadgets, et ils ont tellement de temps à gaspiller pour ainsi dire, que vraiment, ils passent le temps à plutôt répandre des rumeurs, critiquer, juger, plutôt qu'à s'approcher de Dieu, plutôt qu'à tâcher d'apprendre ce que Dieu veut que nous apprenions. Nous vivons dans un monde qui a l'esprit critique, car nous vivons dans un monde où Satan le diable est encore le Dieu de ce siècle. Nous vivons dans un monde où les gens voient le mal, où les gens sont jaloux, où les gens veulent critiquer, veulent profiter de tout. Autrement dit, on veut gagner sans pour autant faire des efforts. On veut avoir tout sans payer le prix, pour ainsi dire. Regardez voir l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est une église, est un endroit qui devrait être et qui est, enfin devrait être, en ce sens que dans l'Église de Dieu, il ne doit pas y avoir de mépris. Il ne doit pas y avoir de critique, d'esprit critique, de jugement. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement pas. Dans l'Église de Dieu, nous devons tous, je répète, non pas seulement aimer tout le monde, respecter tout le monde, faire la volonté de Dieu, mais aussi dans l'Église de Dieu, nous devons absolument éviter de se juger les uns les autres. Et oui, dans l'Église de Dieu, il y a peut-être des gens qui sont plus élevés ou moins cultivés, ça n'a pas d'importance. Nous devons regarder les gens tous comme si des enfants potentiels en puissance de Dieu, et qu'un jour, ces gens-là seront donc dans le royaume de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. C'est là le but. C'est là le but, mes frères et mes sœurs. Ayez ça toujours en tête. Ce qui se passe en ce bas monde, c'est temporaire. S'il y a, mettons, injustice, supposons, cette injustice est temporaire. La vie ici-bas est tellement courte. C'est une vapeur, comme je vous ai dit souvent, comme la Bible le dit. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, ça y est, c'est fini. Mais ce que nous avons devant nous, c'est la vie éternelle. Là est une existence perpétuelle, éternelle, et c'est ça qui compte. Il faut que nous puissions y entrer de la façon à plaire à Dieu, de la façon à avoir un caractère juste, un caractère parfait, et c'est vraiment ce que Dieu veut que nous ayons. Ça, c'est le but. Comment y parvenir? L'apôtre Paul vous dit dans Philippiens, nous ne pouvons pas nous rendre compte. Dans un monde sous l'influence de Satan, le plus grand danger que nous avons, c'est de l'orgueil. Et oui, l'esprit critique, c'est le résultat de l'orgueil. L'esprit du jugement, c'est un résultat de l'orgueil. Donc l'exact opposé de l'orgueil, c'est l'humilité. Voyez ce que l'apôtre Paul écrit. C'est beau, ça, voyez-vous, quand on comprend. Prenez le Christ. Il avait tout, absolument tout. Le Créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu donner sa vie pour vous et pour moi, afin que nous puissions un jour, nous autres, hériter la vie éternelle. Partager avec lui sa gloire. Voilà la différence. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Philippiens chapitre 2, 1 à 5, tâchez, comme je vous ai souvent dit, tâchez de méditer ces versets. Non pas seulement lire, méditer. Regardez voir la profondeur de ces phrases dont l'apôtre Paul plutôt se sert. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 5. Si donc, dit-il, il y a quelque consolation en Christ. Vous savez ce que signifie consolation? Si vous avez consolation, vous n'avez pas de chagrin. Vous êtes consolé. Ici, on parle de Dieu, consolation en Dieu. Donc, si, dit-il, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, là encore, tâchez le temps. Prenez le temps de réfléchir. Soulagement dans la vérité, dans l'amour, charité. Vous savez, c'est fantastique. Si je sais que Dieu m'aime, si je sais que Dieu est avec moi, quel soulagement! Donc, il y a un soulagement fantastique dans cette vérité. Et s'il y a quelque union d'esprit, ah, ce n'est pas marqué un désunion d'esprit. Ce n'est pas marqué critique, non, jugement, non. Union d'esprit. Là où il y a union d'esprit, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Donc, s'il y a union d'esprit, dit-il, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Vous savez, franchement, je peux m'arrêter ici, passer toute une heure à méditer à ces mots. Ce que ça veut dire amour, ce que ça veut dire soulagement, ce que ça veut dire compassion. Compassion, c'est vous souffrez avec quelqu'un. Vous partagez ses souffrances. Vous faites quelque chose. Miséricorde, c'est quoi la miséricorde? Une fois encore, sans miséricorde, vous ne pouvez pas arriver au but. Ici, nous parlons, voyez-vous, de humilité. Ici, nous parlons de l'avenir. Ici, nous parlons d'un esprit critique dont nous devons nous débarrasser. Et au lieu d'avoir cet esprit critique, avoir un esprit de miséricorde. Vous savez, c'est beau. Lisez ça, Philippiens chapitre 2, verset 1. Ensuite, Paul parle maintenant, en tant qu'un père à nous tous, il dit, « Rendez-moi joie parfaite », verset 2, Philippiens 1. Ou Philippiens 2, Philippiens 2, verset 2. « Rendez-moi joie parfaite », dit-il, « ayant un même sentiment », regardez-moi ça, « un même sentiment », un même amour, une même âme, une même pensée. Regardez-moi comment il met tout ça ensemble. Autrement dit, une unité totale. Avec qui? De quoi est-ce qu'on parle? De qui est-ce qu'on parle? Laissez-moi continuer. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Pas encore, critique, esprit, de jugement. Causeur, causeuse, volupté, vanité. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou vain gloire, mais que l'humilité, ça revient. Un jour, vous savez, moi je voudrais prendre dans la Bible toutes les fois qu'il y a le mot humilité, en faire un long sermon. Car ce sera un long sermon parce que ce mot humilité paraît à plusieurs reprises. Mais si nous pouvions nous mettre dans la tête que non, je vais absolument pratiquer l'humilité, non pas seulement par la parole, mais aussi par vos pensées, par vos actes. Si, comme vous pouvez voir, vous pouvez laisser l'humilité vous regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est dur! Lorsque vous êtes intelligent, c'est dur de voir quelqu'un qui n'est pas très intelligent et de vous regarder, cet individu, comme au-dessus de vous-même. C'est dur quand vous voyez qu'on peut voir quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup de talent, alors que vous êtes riche, vous avez beaucoup de talent, de dire, tiens, il est meilleur que moi. Et pourtant, c'est ça, l'humilité. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous puissions vraiment mettre dans notre tête. Donc, regardez les autres au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, verset 4, Philippiens 2, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais tout ça, c'est quoi? Pensez-y. C'est quoi tout ça? Se résume dans le verset 5. Philippiens 2, verset 5. Voyez-vous, tout ça se résume dans « Ayez en vous » les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà les sentiments du Christ. Voilà comment le Christ a vécu sur cette terre. Il avait tout. Il était au-dessus de tous, que ce soit en gloire, que ce soit en richesse, que ce soit en sagesse, tout. Et pourtant, il a regardé les autres qui n'ont rien, comme vous et moi, et pour nous, il a donné sa vie. Comprenez-vous? C'est cela dont on parle. C'est ça le christianisme. En ce bon monde, les gens se détournent de Dieu, se sont détournés de Dieu. Et ils n'ont pas cette compréhension. Alors, faute de quoi, ils jugent les uns les autres et ils sont jaloux, ainsi de suite. Voyez-vous, comme j'ai dit il y a quelques instants, la vie est un défi. Il y a des changements à faire. Chacun de nous doit changer quelque chose dans sa vie. Quelque chose qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. C'est un défi. Ce changement n'est pas toujours facile parce que vous voyez les autres autour de vous qui peut-être pourraient vous rendre la vie difficile. Mais une fois que vous savez que c'est un défi et que vous devez changer, voilà le principe. Je répète, s'il y a quelque chose que vous pouvez changer sans faire du tort aux autres, changez-le. Si c'est dans votre domaine. Si vous ne pouvez pas changer, dans ce cas-là, acceptez les conditions, à moins que ces conditions soient contraires à la volonté de Dieu. Donc, ce faisant, voyez-vous, vous avez l'esprit tranquille. Changez ce que vous pouvez changer, acceptez ce que vous pouvez accepter, sans pour autant transgresser la volonté de Dieu. Vous savez, dans mon ministère, j'ai vu toutes sortes de gens. Des gens qui sont très, très, je dirais, intelligents, des philosophes même, des écrivains, des chefs d'État même. Et aussi, j'ai vu des gens extrêmement pauvres. Et quoi qu'il en soit, dans l'esprit de chacun, que ce soit intelligent ou peu intelligent, il y a toujours cette question. Pourquoi Dieu fait les choses comme il les fait? Et c'est vrai. Peut-être vous vous êtes aussi posé cette question. Pourquoi Dieu fait les choses comme il fait? Ou pourquoi Dieu permet les choses comme il les permet? Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il y avait un accident d'autocar en France, et il y avait 50 personnes innocentes, innocentes pour autant qu'on puisse être innocent, sont morts dans cet accident d'autocar. Les journaux disaient, mais pourquoi, pourquoi? Il y avait des enfants dans l'autocar. Pourquoi Dieu permet-il ce genre de choses? Voyez-vous, ce pourquoi n'est pas nécessaire. Si vous avez les yeux sur Dieu, et vous savez que Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu nous protège tous. Si une telle chose arrive, il peut y avoir beaucoup de raisons. Ça peut être négligence humaine. Ça peut être des conséquences que les hommes, dont les actions des hommes ont produites, je ne sais pas. Mais Dieu est au courant, si Dieu n'a pas empêché, et Dieu n'empêchera pas toujours les choses, Dieu sait pourquoi. Donc, laissez Dieu agir. Prenez encore, écoutez, l'Holocauste. Il y avait 5 millions dans les Holocaustes. 5 millions. Comment est-ce que Dieu, un Dieu de justice, de bonté, peut permettre cela? Ce n'est pas une question de permettre. Ce sont les hommes qui ont produit cet état de choses, l'humanité même, qui sont responsables. Dieu n'est pas coupable de cela. Dieu a permis. Dieu permet beaucoup de choses. Moi, je peux mettre à ce moment-ci, tourner le dos et faire ce que je vais faire. Dieu ne m'arrêtera pas. Voilà la liberté qu'il nous a donnée. La liberté que nous avons est un privilège précieux. Nous devons, nous, apprendre à marcher dans la voie divine, car Dieu nous donne son Saint-Esprit, afin que cette liberté que nous avons sous le Saint-Esprit puisse nous conduire dans la bonne voie. Comprenez-vous? Et n'oubliez pas, en fin de compte, tous auront l'occasion d'apprendre cette vérité, tous auront l'occasion de naître dans le royaume de Dieu s'ils se soumettent. Autrement dit, ce qui se passe dans ce moment, même si nous ne comprenons pas bien, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Nous pouvons changer notre vie, nous pouvons modifier les choses, nous pouvons améliorer notre caractère, et de par cette expérience, nous nous approchons de Dieu. Voilà pourquoi donc, personnellement parlant, j'ai appris parfois à un prix assez cher. Si quelque chose m'arrive et que ce n'est pas très encourageant ou bien c'est triste, je laisse Dieu me permettre de comprendre ce qui se passe sans jamais blâmer Dieu. Et vous verrez la paix d'esprit que vous avez. Ce n'est pas facile. Si Dieu vous permet de comprendre cette vérité, en fin de compte, quel que soit le malheur, quel que soit l'épreuve, vous sortirez vainqueur. Ce n'est pas facile. Non, Dieu n'a pas dit dans la Bible que la vie est facile, pas du tout. Regardez voir les prophètes, ils ont donné leur vie pour proclamer l'Évangile. Regardez les apôtres du Christ, eux aussi, ils ont donné leur vie. Ce n'est pas facile. Mais il y a une différence entre ce qui est facile et ce qui est utile, nécessaire, dans l'accomplissement d'une tâche, comme ces prophètes et apôtres ont fait, et qui nous ont permis de comprendre, eux, ils ont une récompense fantastique qui ne peut pas être comparée à ce qui se passe en ce bas monde. Commencez-vous à comprendre. Malheureusement, aujourd'hui, regardez le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que nous avons en ce bas monde? Qu'est-ce que les médias vous offrent? Qu'est-ce que le livre que vous lisez vous offre? Qu'est-ce que le cinéma vous offre? Et c'est vrai. Autrement dit, le tout aujourd'hui est dégénéré, pour ainsi dire. Alors nous nous éloignons de Dieu. Au lieu de passer du temps avec Dieu, nous passons du temps à des films qui ne valent pas la peine d'être vus. Au lieu de lire la Bible, nous lisons des livres, d'une façon générale, pas toujours, qui ne valent pas être lus. Au lieu de passer le temps à prier, à méditer, on passe le temps dans des bars ou des... je sais pas. Autrement dit, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas dire qu'il faut être, entre guillemets, il faut s'écarter du monde, pas du tout. Mais d'une façon générale, avec les médias, les gadgets que nous avons, les inventions que nous avons faites, nous avons beaucoup de temps à gaspiller. Si vous gaspillez votre temps, automatiquement vous avez l'esprit de critique, l'esprit de jugement, l'esprit d'injustice. C'est ce qui se passe aujourd'hui, voyez-vous. Je me rappelle souvent, dans mon ministère, lorsque les gens me posent une question en disant « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer ?» Vous savez, la réponse, c'est comme si on parle de cinéma, bon, allons-y au cinéma. Vous allez au cinéma, vous entrez dans la salle, au milieu du film. Vous êtes perdu. Vous ne savez pas ce qui se passe parce que vous n'avez pas vu le commencement, ni la fin. Donc, c'est ainsi que souvent, lorsque nous nous réveillons, je dirais, nous sommes au milieu d'un film. Et nous demandons pourquoi, alors que nous n'avons pas eu ou su le début, et nous ne pouvons pas voir, ou bien nous ne savons pas la fin. Voilà pourquoi souvent nous disons pourquoi, alors que si nous savions pourquoi Dieu nous a créés, si nous savions ce que Dieu veut que nous ayons, si nous connaissions le but de la vie, on n'aurait pas ces pourquoi. La plupart du temps, les pourquoi que nous avons ne sont pas nécessaires. Et non, ce n'est pas du tout nécessaire, parce que Dieu nous donne la compréhension. Donc, je répète, attendez jusqu'à la fin pour voir ce qui va se passer. Entre-temps, continuez à faire confiance en Dieu. Souvent aujourd'hui, les gens rejettent l'Ancien Testament. Écoutez, l'Ancien Testament est aussi la parole de Dieu que le Nouveau Testament. Laissez-moi vous citer Néhémie. C'est dans l'Ancien Testament. C'était aussi un serviteur de Dieu. Regardez ce qu'il écrit en ce qui concerne le peuple. Néhémie chapitre 9, versets 32 à 35. Et maintenant, dit-il au notre Dieu, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde. Voyez-vous, c'est Dieu qui exerce. Lorsque Dieu exerce la miséricorde, c'est permanent. Ce n'est pas comme nous qui oublions, mais seulement temporairement. Lorsque Dieu fait miséricorde, c'est pour de bon. Ne regarde pas comme peu de choses, dit-il, toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Voyez-vous, Dieu a vu ce qui s'est passé avec les apôtres, avec les prophètes, et même en ce 21e siècle, tous les malheurs. Dieu voit tout ça. Il dit, c'est pas peu de choses, toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, l'ennemi commence à comprendre ce que c'est. Donc, c'est pas la faute à Dieu, ces malheurs. Et nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout ton peuple, dit-il, depuis le temps des rois, dit-il, jusqu'à ce jour, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Pouvez-vous vraiment dire, à n'importe quel moment de votre vie, tout ce qui m'arrive est juste? C'est difficile. C'est vraiment difficile. Et pourtant, voyez-vous, c'est cette prière que Néhémie a faite. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Car tu t'es montré fidèles et nous avons fait le mal. Voilà encore une autre phrase à méditer. Dieu se montre fidèle alors que nous faisons le mal de par notre nature charnelle. Voyez-vous, alors là, vous avez un esprit converti. Si vous pensez ainsi, comme Néhémie pense, si vous priez ainsi, alors vous approchez de Dieu et les pires malheurs même ne pourront pas vous faire du tort. Certes, ça fait mal, mais vous passez dessus, par-dessus, parce que Dieu est là, Dieu vous protège. Verset 34, Néhémie 9, dit « Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos pères n'ont pas observé ta loi. » Et c'est vrai aujourd'hui. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas observer la loi de Dieu comme Dieu veut que nous puissions vraiment le faire. Ils n'ont pas été attentifs. Ils n'ont pas obéi à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. Voilà la vérité. Voilà pourquoi nous souffrons sur cette terre. Prenez le temps de compter vos bénédictions. Voyez-vous, nous avons tous dans la vie des épreuves. Nous avons tous parfois dans la vie des occasions où nous voudrions « j'en ai assez, je n'en peux plus ». Et pourtant, si vous comprenez ce que je dis, si vous comprenez la Bible, si vous croyez à Dieu, vous verrez que Dieu a dit qu'il ne nous éprouvera jamais au-dessus de nos forces. Donc, vous ne pouvez jamais dire « j'en ai trop, c'est assez », pas du tout. Dieu est bon, Dieu est juste. Dieu sait jusqu'où nous pouvons aller sans craquer, pour ainsi dire. Il n'y a personne dans ce bas monde qui n'ait pas souffert. Et parfois même, je dirais, presque impossible à supporter, presque, je dis. Laissez-moi vous donner un exemple. Prenez Job. J'ai souvent parlé de Job. Regardez voir son attitude. Aux yeux de Dieu, il était juste. Il était intègre. Aux yeux de Dieu, Job méritait tout. Et il avait tout. Une famille fantastique, une fortune fantastique, de la gloire, comme vous voulez. Il menait une vie fantastique. Et de par la jalousie de Satan, Dieu a permis à Satan de tenter Job. Job ne savait pas qu'il allait être tenté. Satan le savait. Dieu le savait. Alors, regarde-moi cet exemple. Tout ce qui lui arrive, Job dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne comprends pas. Il a posé beaucoup de questions, mais il ne s'est pas détourné de Dieu. Il a tout perdu, sa famille, tout ce que vous voulez, la fortune, la santé. À un certain moment, la femme m'a dit, écoute, autrement dit, laissez-moi citer plutôt Job chapitre 40. Non, ça je le resterai. Laissez-moi vous citer donc sans la Bible ce que Job a dit. Lorsque la femme a dit, écoute, maudit Dieu, et va-t'en, autrement dit, arrête-toi de t'obéir à Dieu, de regarder Dieu comme étant ton maître, ton Dieu. Qu'est-ce que Job a dit? Je paraphrase, il dit, écoute, tu es folle, nous recevons de Dieu ce qu'il nous a donné, nous ne recevrions pas ce qui n'est pas peut-être facile à prendre. Je paraphrase. Autrement dit, une fois que vous avez cette attitude, ah oui, c'est ici, je n'avais pas vu, il dit, laissez-moi citer, Job chapitre 42, il dit, pour une fois, Job commence à comprendre la réponse à toutes ses questions. Lorsque sa femme lui a dit, maudit Dieu, et va-t'en, il a dit, tu es folle comme tu raisonnes. Mais après, toutes les questions que Job s'est posées, ses trois amis sont venus auprès de lui, lui ont expliqué, mais ils l'ont mal expliqué. Non pas que ce qu'ils ont dit c'était mauvais, non. Ils ont donner de bonnes réponses, mais c'était des réponses à des questions auxquelles les réponses ne s'appliquaient pas. Autrement dit, vous posez une question, je vous donne une réponse, une bonne réponse, mais ne répond pas à votre question. C'est ce qui s'est fait avec les amis de Job, les trois amis. Quelqu'un m'a dit donc, il ne faut pas que je lise ce passage du livre de Job où les amis parlent. Mais si, mais si. Il faut lire. Ce sont de bons conseils que les amis donnent et ont donné. Seulement, ne s'appliquait pas aux questions que Job avait posées. Et qu'est-ce qui se passe? Satan a perdu évidemment son pari entre guillemets. Et Job ne comprenait pas ce qui se passait. Il a entendu les arguments de ses amis. Il a posé des questions et attendait une réponse de Dieu. Lisez voir ce livre de Job, ça vaut la peine. Dieu n'a pas répondu aux questions de Job. Eh oui, il n'a pas répondu. Mais il a quand même donné des réponses. Lisez Job 37, 38, 39, etc. Lorsque Dieu parle, c'est fantastique. Dieu parle à Job en disant, écoute, as-tu vu la splendeur de la nature, la puissance, la beauté? Qu'est-ce qui a créé tout ça? Alors, Dieu commence à poser des questions à Job. Qu'est-ce qui a créé tout ça, cette beauté, cette nature, cette puissance, l'univers? Qui? Et vous savez ce qui s'est passé? Tout d'un coup, Job, sans avoir eu la réponse à ses questions, il a quand même compris. Notez-le. Job 42, verset 1. Job répondit à Dieu, « Je reconnais, dit-il, que tu peux tout, que rien ne t'oppose, s'oppose à tes yeux, à tes pensées. Quel est celui, dit-il, qui a la folie d'obscurcir tes desseins ?» C'est Job qui parle. Maintenant, il commence à voir, à comprendre, sans avoir eu la réponse. Mais il a vu de ses yeux. Il a vu la splendeur de Dieu, la splendeur de la nature même, de la création. Oui, dit-il, j'ai parlé, verset 3, Job 41, j'ai parlé, dit-il, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Encore une fois, une vérité fantastique. On ne peut pas concevoir et on critique. On ne peut pas concevoir et on se plaint. Job a compris, des merveilles, dit-il, qui me dépassent. Écoute-moi, dit-il, et je parlerai. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille t'avait vu, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, dit-il, mon œil t'a vu. C'est pourquoi quoi? Je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Autrement dit, symbole de repentance. Voyez-vous, ça c'est la réponse à nos questions. Juger, non. Critiquer, non. Se plaindre, non. C'est pas ça. La voie, c'est d'avoir les yeux sur le Christ et savoir que lui, c'est tout, et lui faire entière confiance. Sachant que Dieu est toujours juste, tu es bon, et que tout ce que Dieu a fait est juste, et que Dieu fait toutes choses pour que tous puissent en bénéficier, et non pas seulement vous, non pas seulement moi. Psaume, chapitre 19. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Comment est-ce que vous pouvez vraiment vous plaindre lorsque vous dites que la loi de l'Éternel est parfaite? C'est pas possible. Elle restaure l'âme. Mes frères et mes sœurs, je répète, nous qui sommes membres de l'Église, ou bien vous qui m'écoutez sur Internet ou website, tâchez de comprendre. Tâchez de comprendre si Dieu est parfait et Dieu est parfait, si les lois de Dieu restaurent l'âme, si le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant, et tout ça c'est vrai. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous plaindre? La crainte de l'Éternel, verset 10, est pure. Elle subsiste à toujours. La crainte de l'Éternel, c'est le respect de Dieu. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Écoutez, combien de fois ne va-t-on pas lire dans la Bible autant de vérités concernant la volonté de Dieu, la perfection, sa sagesse, sa miséricorde? Dans tout ce que je viens de vous dire ici, voyez-vous, ça se répète dans Psaume 19. Dans tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est juste. Quelle vérité sublime. Ésaïe a aussi révélé une autre vérité indispensable pour nous tous. Ésaïe dit une chose, je dirais franchement parlant, à laquelle nous devons vraiment réfléchir. Mon esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Ma compréhension n'est pas celle de Dieu. Ma capacité est tellement limitée à comparer à la compréhension illimitée de Dieu. Regardez ce qu'il dit, Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire quoi? Parce que le moment viendra où ce monde se sera tellement détourné de Dieu que les gens chercheront Dieu, ne pourront pas le trouver. Il y aura tellement de dégâts, tellement de difficultés, tellement de souffrances sur cette terre. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne ses voies. Jugement est une mauvaise voie, critique est une mauvaise voie, calomnie est une mauvaise voie, abandonner ses mauvaises voies. L'homme d'iniquité dit-il ses pensées. Il faut que nous puissions suivre ses instructions. Qu'il retourne à l'Éternel Dieu qui aura pitié de lui. Là encore, voilà encore une assurance fantastique. Malgré nos difficultés, malgré nos souffrances, malgré nos méchancetés, Dieu a pitié de nous. Dieu pardonne nos péchés. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et ensuite, Dieu révèle cette vérité dont je vous parle. Et là encore, une vérité fondamentale que nous devons vraiment comprendre. Il dit, Dieu a dit, car mes pensées, verset 8, Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ensuite, il compare, il donne une comparaison, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, mes frères et mes sœurs, nous en sommes. Où en sommes-nous? Ben, la réponse est simple. Quand vous et moi, nous regardons l'univers, nous contemplons cette nature autour de nous, et lorsque nous pouvons voir comment Dieu, lui-même, dans sa bonté, dans sa souffrance, dans nos souffrances, il peut vraiment oublier nos péchés, nous pardonner nos fautes, alors nous pouvons comprendre la grandeur de Dieu. Je voulais parler de David, je n'ai pas le temps, mais lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, et lorsque Dieu lui a proposé 3 châtiments, dont 2 étaient de la part des hommes, et le troisième était de la part de Dieu, qu'est-ce que David a dit? 2 Samuel, chapitre 24, verset 14. Dieu dit, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, dit-il, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, et que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Voyez-vous, David a compris, David a su. Écoutez, je vais terminer maintenant ce sermon, mais tâchez de faire une chose. Lorsque vous lisez la Bible, passez le temps à lire la Bible en vous disant, je crois à ce que Dieu dit. Je vais cesser de juger, je vais cesser de critiquer. Je vais vraiment avancer vers Dieu en ayant l'esprit du Christ, l'esprit d'humilité et non pas l'esprit critique. L'esprit de sagesse comme le Christ a, parce que nous avons, nous, qui avons été baptisés, le Saint-Esprit. Car nous recevons l'Esprit de Dieu après le baptême, après l'imposition des mains de la part du ministre. Donc, en fin de compte, où en sommes-nous? Dieu a promis de nous récompenser. Dieu a promis de nous donner ce dont nous avons besoin. Dieu a promis de nous donner toute la force dont nous avons besoin afin d'arriver au but. Appréciez Dieu. Appréciez sa bonté. Appréciez sa miséricorde. Tout ce que Dieu fait est toujours bon, toujours juste pour notre bien. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de châtiment, à moins que ce châtiment nous serve à avancer dans la vérité. Soyons donc, je dirais, à jamais reconnaissants à Dieu. Vous savez, j'ai eu plaisir à faire ce sermon, parce que je me vois en même temps mon caractère, aussi bien que le vôtre, notre tendance humaine chaque jour, quand nous voyons le mal autour de nous. Et comme Job, nous devrions dire, pourquoi ne pas voir le bien autour de nous? Pourquoi ne pas voir une leçon dans un châtiment qui nous est infligé? Pourquoi pas? Autrement dit, soyez attentifs, voyez dans le malheur une bénédiction. Et alors vous verrez la bonté de Dieu, la sagesse de Dieu, et vous serez d'autant plus reconnaissant à Dieu par ce Dieu qui nous donne cette instruction, qui nous donne cette compréhension, a donné sa vie pour que nous puissions, nous tous, qui nous approchons de lui, puissions partager un jour sa gloire éternelle.